Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes. Et puis le Club des Idées à 19h15. Carte blanche ce soir d'Anne Rosanchet de l'Express qui rendra un bel hommage au grand résistant et compagnon de la libération Daniel Cordier. 19h20, le grand débat. La dette en question ce soir, qui paiera pour tous ces milliards injectés dans l'économie? C'est bien, mais ça coûte cher, le chômage partiel, les plans de relance et les aides. Faudra-t-il augmenter les impôts, réduire les dépenses publiques ou au contraire ne rien rembourser du tout? On en débattra avec nos invités. Et puis 19h50, le jour où, retour ce soir sur Diego Maradona, un immense footballeur, mais aussi, vous l'entendrez, une icône de la culture pop. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Il faut arrêter maintenant, je vais vous dire, franchement, de nous prendre pour des cons. Et attendez, vous oubliez mon personnel, il ne peut plus travailler mon personnel, il se retrouve à la rue. Attendez, mais vous avez vu ça?
Les restaurateurs, cafetiers, gérants de discothèques dans la rue à Marseille pour dénoncer le maintien de la fermeture de leurs établissements.
Fermeture confirmée ce matin par Jean Castex.
Fermeture confirmée aussi pour les universités et elles non plus ne comprennent pas pourquoi. Non, les facs ne sont pas des clusters en puissance.
Maintenir la pression, ne pas relâcher les efforts, dit le Premier ministre. Et pourtant, on verra que la France est plutôt bon élève d'un point de vue sanitaire si on la compare à ses voisins.
Enfin, un accord sur le télétravail entre syndicats et patronats. Ce fut long et compliqué, accord qui mise avant tout sur le dialogue social au sein de chaque entreprise.
Les trois policiers filmés en train de frapper un producteur de musique noire à Paris, samedi dernier, suspendu. Les images montrent une intervention très violente assortie d'après l'intéressé de propos racistes.
Et puis au sommaire également, cette guerre qui secoue actuellement le nord de l'Éthiopie. Déjà des centaines de morts au Tigré, mais le pire est à venir, nous dira Didier François.
Un coup d'œil au temps avec Anissa, du soleil après les grisailles matinales.
Oui, la journée de demain va commencer comme depuis plusieurs jours par de nombreux brouillards, soyez prudents. Puis le soleil s'impose dans l'après-midi. Attention, le temps reste agité au bord de la Méditerranée. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Comme prévu après les annonces d'Emmanuel Macron, c'est donc Jean Castex qui ce matin a fait le service après-vente.
Avec une confirmation, dès samedi, les commerces pourront ouvrir et ce jusqu'à 21h. Les auto-écoles et les visites immobilières pourront également reprendre. Les lieux de culte vont rouvrir progressivement, mais avec une jauge finalement maintenue, limitée à 60 personnes maximum.
Les sports individuels en plein air. Les sports individuels en plein air seront de nouveau autorisés à partir de ce week-end, mais dans les stations de ski, les remontées mécaniques et les équipements collectifs resteront fermés.
En gros, vous pourrez respirer le bon air de la montagne, c'est tout. Pas de ski, pas de raclette, pas de vin chaud, puisque comme partout, bien sûr, les bars et les restaurants seront eux aussi fermés.
Et ils le resteront au moins jusqu'au 20 janvier. La colère monte de plus en plus chez les intéressés qui s'estiment sacrifiés.
Et qui ont de nouveau manifesté aujourd'hui, comme à Marseille, Stéphane Frangy, avec encore plus de monde que les fois précédentes.
Oui, beaucoup sont venus en autocar pour grossir les rangs de cette manifestation, venus de Béziers, de Nice ou encore des Hautes-Alpes. Et ce sont au final autant de messages de détresse que l'on peut entendre. Exemple avec Jacques qui se dit pour sa part pratiquement ruiné.
Je suis pas loin, après 21 ans de travail, tout ce que j'ai mis de côté est parti. J'ai fait un prêt de 100 000 euros, ce PGE est parti dans la première phase des loyers. Et là maintenant, il n'y a pas de caisse qui rentre. Donc automatiquement, ce sont sur les économies et le peu qui nous reste.
Voilà, et dans le cortège, sur les pancartes, certains comme Sandra ont écrit leur menu du jour.
Alors au menu, tout ce que notre cher Manu nous annonce, des taxes, du chômage et de l'espoir, on en a beaucoup plus malheureusement.
Et la colère monte tout simplement chaque jour un petit peu plus. Exemple avec Jacques Mestre, le président de l'UMI de l'Hérault.
Nous faisons la distanciation, des séparations. S'il faut en faire un peu plus, on est capable de le faire. Mais il faut arrêter maintenant, je vais vous dire, franchement, de nous prendre pour des cons. Et attendez, vous oubliez mon personnel, il ne peut plus travailler mon personnel, il se retrouve à la rue. Attendez, mais vous avez vu ça?
Voilà, un sentiment d'urgence doublé d'une très grande défiance. Personne ici ne croit une possible réouverture en janvier prochain.
Le reportage de Stéphane Frangy à Marseille.
Autre secteur qui s'estime injustement pénalisé, les universités. Pas de reprise des cours en présentiel avant février et si tout va bien.
Et ça, c'est catastrophique pour les étudiants. Le président de la fac Bordeaux-Montaigne, Lionel Larré, ne comprend pas car pour lui, contrairement aux idées reçues, les facultés ne sont pas du tout des clusters en puissance.
On est en colère, on ne comprend pas pourquoi les universités sont la dernière des priorités. Les universités et les étudiants sont victimes de clichés. On a décrit à un moment les universités comme des clusters. Or, c'est faux. Nos étudiants respectent le port du masque, les gestes barrières, la distanciation. Nous, à l'université Bordeaux-Montaigne, Au sommet de l'épidémie, on a eu 45 cas positifs sur 18 000 étudiants. Et c'est vrai dans la plupart des universités. Totale incompréhension, puis surtout maintenant inquiétude pour nos étudiants. Des gamins qui décrochent, des études sont faites sur le niveau de déprime, de détresse dans lesquelles un grand nombre d'étudiants se trouvent. Il y a une question de santé publique là, qui va se poser très clairement. Les présidents d'université s'organisent pour réclamer le retour des étudiants au moins dès le début du deuxième semestre, aux environs de mi-janvier selon les établissements, et non pas en février, au pire avec 50% des étudiants comme on le faisait auparavant, ce qui fonctionnait très bien avec toutes les précautions nécessaires. Les universités se sentent méprisées aujourd'hui.
Lionel Larré, le président de la faculté Bordeaux-Montaigne, au micro européen de Stéphane Place.
Autre précision apportée par le Premier ministre ce matin, il y aura une tolérance pour rentrer du cinéma et du théâtre après 21h à compter du 15 décembre, date à laquelle les conservatoires et écoles de musique rouvriront, mais pas les classes de chant.
Le gouvernement qui met de nouveau la main au portefeuille pour aider les plus impactés. L'État promet de créer 20 000 jobs étudiants pour les jeunes décrocheurs, également une garantie de ressources de 900 euros par mois pour près de 400 000 précaires, et puis une nouvelle aide pour les entreprises de certains secteurs particulièrement pénalisés par la crise, notamment l'hôtellerie.
Oui, l'effort paye, mais nous ne pouvons pas baisser la garde, a redit ce matin le Premier ministre en détaillant ces mesures. Les Français vont donc encore devoir patienter, faire des efforts.
Et pourtant, Victor Delande, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, eh bien, on n'est pas si mal. La France est même, pour une fois, parmi les meilleurs élèves de l'Europe.
Oui, le taux d'incidence en France a connu un très fort recul sur les trois dernières semaines. On a même moins de contaminations depuis quelques jours que l'Allemagne. Le pic épidémique en France a été atteint lors de la deuxième semaine de novembre. Ça signifie que depuis trois semaines, le nombre d'infections est en diminution constante, une chute rapide, puisque chaque semaine, on compte 30% de cas positifs en moins par rapport à la semaine précédente. Sur les 7 derniers jours en moyenne, un peu moins de 15 000 cas ont été recensés chaque jour, contre 45 000 au moment du début du confinement. La diminution est également visible dans les hôpitaux, les hospitalisations et le nombre d'admissions en réanimation baissent tous les jours. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donc loué la stratégie de la France ces dernières semaines.
On peut dire que ça va mieux et à tous les niveaux. Les mesures que nous avons prises étaient et elles restent nécessaires, efficaces, proportionnées. Elles ont été prises au bon moment. La pression sanitaire reste forte. L'épidémie n'est pas derrière nous. La seconde vague n'est pas terminée. Nous devons donc poursuivre sur notre lancée, ne pas relâcher maintenant notre vigilance, surtout pas, ne pas relâcher nos efforts, et nous réussirons.
Si le recul de l'épidémie se poursuit, nous pourrions atteindre les 5000 cas par jour à la fin de la deuxième semaine de décembre, a assuré Olivier Véran. 5000 cas par jour, c'était le seuil fixé par le chef de l'État pour remonter toutes les chaînes de contamination et donc reprendre le contrôle sur l'épidémie. Prudence, toutefois, cette prévision est plutôt optimiste. Les modélisateurs de l'épidémie estiment, eux, que nous atteindrons cette barre plutôt vers la fin du mois de décembre.
Précision de Victor Delande du service Société d'Europe 1.
Et même si la situation s'améliore donc lentement d'un point de vue sanitaire, pas question pour l'instant de reprendre une vie normale. Le télétravail, notamment, reste la règle.
Et cette fois, ça y est, un texte a enfin été validé par les partenaires sociaux après des allers-retours nombreux, des discussions laborieuses. Trois syndicats, la CFDT, FO et la CFTC, ont annoncé leur intention de le signer. On attend maintenant la décision de la CFE-CGC. Pour la CGT, c'est non. Alors au final, que prévoit ce texte, Olivier Samain ?
Eh bien, jusqu'au bout, le patronat s'est accroché à son exigence de ne pas aboutir à un texte normatif, autrement dit un texte qui rajouterait des obligations nouvelles aux entreprises en matière de télétravail. Et il a obtenu gain de cause. L'accord ne sera pas normatif, mais les syndicats qui ont annoncé leur intention de le signer considèrent que sur plusieurs points, le texte va permettre de mieux protéger les salariés en télétravail. D'abord, sur la question sensible de la délimitation des postes télétravaillables dans l'entreprise. L'employeur devra à minima consulter les élus du personnel et sera même encouragé à négocier un accord sur le sujet. Même chose sur la question des frais qu'entraîne le télétravail pour le salarié. C'est l'employeur qui doit les prendre en charge, mais sur les modalités de cette prise en charge et le montant du forfait, la négociation d'un accord dans l'entreprise est recommandée. Le passage en télétravail devra faire l'objet d'un double volontariat, celui de l'employeur et celui du salarié. Et la possibilité pour un salarié qui a accepté de passer en télétravail de revenir ensuite sur sa décision est gravée dans le marbre. Il pourra retrouver son poste d'origine. L'accord prévoit enfin un cadre spécifique pour les situations exceptionnelles, type pandémie. Là, le double volontariat ne s'appliquera pas, c'est l'employeur qui décidera. Mais là aussi, le dialogue social est préconisé pour définir les conditions du passage au télétravail.
Le décryptage d'Olivier Samain du service Écho d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Il est 19h10, c'est la suite de votre journal avec Isabelle Millet et on parle de cette vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Un homme noir passé à tabac par des policiers alors qu'il se trouve à l'entrée de son studio de production. Ça se passe dans le 17e arrondissement de Paris, scène qui a eu lieu samedi dernier.
Et c'est la vidéosurveillance de ce studio qui a permis de révéler cette affaire au grand jour. Les images sont extrêmement choquantes. On y voit le fameux Michel, manifestement pas du tout agressif, subir pendant plus de 10 minutes des coups de pied, de poing et de matraque.
Avant d'être interpellé et conduit au poste où il passera 48 heures en garde à vue, avant d'être libéré, faute de charges retenues contre lui, face à l'émotion suscitée par ces images, les trois policiers ont été suspendus par le préfet de police à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Le préfet de police qui demande également ce soir la suspension d'un quatrième policier qui, lui, a lancé une grenade lacrymogène à l'intérieur du bâtiment.
Maître Afida El Ali est l'avocate du producteur. Elle l'a accompagné cet après-midi pour son dépôt de plainte à l'IGPN.
Mon client a eu la chance d'avoir ces vidéos qui permettent de dénoncer ces actes qui sont certes isolés, mais qui existent. Et si on n'avait pas cela, malheureusement, évidemment qu'il sera en détention, parce que c'est sa parole contre celle des policiers, et l'on sait parfaitement que c'est celle des policiers qui l'emporterait. Quelle que soit la personne, quelle que soit l'ignominie des choses qu'elle ait pu faire, ce qui n'est pas celle de mon client, il n'a pas à être ainsi molesté et battu de la sorte.
La suite, c'est quoi pour vous ?
La suite, c'est les services de police en fonction de leur rapidité. On espère une confrontation dont mon client est prêt à y aller. Contrairement aux services de police qui, en garde à vue, ont refusé au départ, souhaitaient venir, mais à partir du moment où ils ont découvert qu'il y avait des vidéosurveillances, l'ont refusé, puisque la vérité aurait été exposée au grand jour.
L'avocate du producteur tabassé par trois policiers, elle était au micro européen de Pierre Herbulot. Beaucoup de réactions depuis la diffusion de cette vidéo. « J'ai mal à ma France », tweet le footballeur Antoine Griezmann. « Le préfet doit partir, la police doit être reprise en main », dit Jean-Luc Mélenchon. Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur, patron des députés LREM, estime qu'à travers cette agression insoutenable, c'est notre humanité qui est atteinte.
Oui, affaire qui survient alors qu'on le rappelle. Il y a aussi l'affaire de l'adoption cette semaine par l'Assemblée nationale de la proposition de loi de sécurité globale avec le fameux article 24. On attend donc une réaction ce soir du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Et alors que l'on a par ailleurs appris tout à l'heure que trois policiers impliqués dans l'interpellation violente de Théo, qui avait relancé, vous en souvenez sans doute, en 2017, le débat justement sur les violences policières, et bien ces trois policiers seront jugés faits rares devant une cour d'assises pour violences volontaires.
Dans l'actualité également ce soir, Isabelle, une guerre dont jusqu'ici on a très peu parlé, celle qui oppose actuellement l'Éthiopie au Tigré, l'une de ces régions indépendantistes.
Aujourd'hui, le président éthiopien a annoncé le lancement d'une vaste offensive contre la principale ville de cette province. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Offensive qui s'annonce sanglante pour les civils et qui pourtant semble laisser indifférente la communauté internationale.
Bah oui, voilà, c'est ce qu'on appelle une guerre à bas bruit. Ça fait quand même 3 semaines que les combats ont commencé. Ils ont fait plusieurs centaines de morts, dont de nombreux civils, des dizaines de milliers de vieillards, de femmes, d'enfants ont déjà fui au Soudan, où ils s'entassent dans divers camps de fortune, montés à la hâte, alors parfois par les Nations Unies, mais souvent par les réfugiés eux-mêmes. Il y manque absolument de tout, de l'eau, de la nourriture, des médicaments. Mais voilà, c'est loin, isolé dans la Corne de l'Afrique, une région assez difficile à placer sur la carte, sans matière première vitale ou enjeu stratégique majeur. Et donc oui, le massacre va s'y poursuivre dans une assez grande indifférence, faut bien le dire, puisque la réunion du Conseil de sécurité qui s'est tenue mardi sur la question n'a finalement adopté aucune résolution, à la demande d'ailleurs des pays africains qui voulaient tenter une médiation entre le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens. Mais à l'évidence, l'affaire est plutôt mal engagée puisque, comme vous l'avez dit, l'armée vient d'annoncer le début de son offensive sur la principale ville rebelle dans laquelle est assiégée un demi-million d'habitants.
Et quelle est la raison, Didier, de ce conflit ?
Eh bien, c'est l'éternelle bataille pour le pouvoir sur fond de division ethnique. Il faut savoir que ceux qui sont aujourd'hui les rebelles dans le Tigré ont été pendant 30 ans, en fait, les véritables patrons de l'appareil sécuritaire éthiopien de 1991 à 2018, date à laquelle un nouveau Premier ministre a été nommé à la tête du pays, qui lui est d'origine Oromo. C'est l'ethnie la plus nombreuse en Éthiopie. Et donc, il a commencé à remettre en cause la domination des Tigréens sur l'armée et les services de renseignement. C'est à la suite de ces purges que la révolte du Tigré a commencé. Et c'est pour mater ce soulèvement que les forces fédérales ont déclenché cette guerre.
Merci Didier pour ce papier. C'est notre rôle et notre fierté de journaliste aussi de parler de ces guerres oubliées qui passent parfois sous les radars. Merci à vous. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h. L'hommage national cet après-midi aux Invalides à Daniel Cordier, décédé vendredi dernier, avant-dernier compagnon de la Libération. Emmanuel Macron a longuement salué sa mémoire. Avec quelques autres, il a permis, a-t-il dit, à la France de reprendre possession de son destin.
Diego Maradona sera enterré ce soir ou demain matin dans un cimetière proche de Buenos Aires. Des dizaines de milliers de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage devant le palais présidentiel où était exposé son cercueil. Mediapro, le diffuseur majeur de la Ligue 1 qui souhaite revoir son contrat à la baisse, assigne Canal+ en justice. Il lui reproche de tenter de l'évincer du marché des droits TV du foot français. Et puis la quatrième journée d'Europa League, Lille, leader de son groupe, accueille le Milan AC. Ça se passe en ce moment. La rencontre a débuté il y a une vingtaine de minutes, pour l'instant toujours 0-0. Et puis à 21h, Nice reçoit le Slavia Prague sans son attaquant Kasper Dolberg, positif au Covid-19.
Bien, merci Isabelle pour ce journal. À demain, 18h. La météo avec un coup d'œil au ciel. Nice nous a rejoint. Du mauvais temps dans le sud demain. Voilà
oui.
Le programme.
Sur le golfe du Lion, Julien, la journée de demain sera agitée avec de la pluie toute la journée. Ces précipitations vont s'intensifier dans l'après-midi. Le vent d'Otan souffle toujours fort et sur le Var, c'est le vent d'Est qui se lève. À l'est de la Corse, là aussi, pluie, vent et averses orageuses. En Bretagne, Normandie, Hauts-de-France et Centre-Val de Loire, le ciel est un petit peu plus nuageux. Partout ailleurs, le soleil est bien au rendez-vous. Demain, la journée sera agréable dans l'ensemble. Les températures, moins 2 à 12 degrés demain matin, moins 2 pour Nancy, 12 à Marseille. Et puis au meilleur de la journée, nous aurons 4 à 19 degrés, 4 à Strasbourg, 10 à Paris et 19 pour Ajaccio.
Voilà, c'est le grand écart entre 4 et 19.
Ah ouais, grand écart, ouais.
Merci Anissa.
À demain.
À demain. Dans quelques secondes, le débat du Club des idées. Qui paiera la dette Covid, le soutien à l'économie? Ça coûte cher, c'est un peu l'argent magique en ce moment. Alors qui paiera à l'arrivée? On en débattra avec nos invités. D'abord, la carte blanche. Signé ce soir, Anne Rosanchet.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Anne Rosanchet, directrice déléguée à la rédaction de l'Express.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, c'est une carte blanche en forme d'hommage. Hommage à Daniel Cordier. Il était l'un des deux derniers compagnons de la Libération encore en vie. On l'a entendu dans le journal. Il s'est donc éteint le 20 novembre et vous lui consacrez donc votre texte ce soir.
Oui Julien, la France lui a rendu cet après-midi, et c'est heureux, un hommage national. Mais puisque nous vivons tous aujourd'hui dans un pays dont l'honneur fut sauvé par quelques-uns, dont Daniel Cordier fut, alors je voulais en effet, en tant que simple citoyenne, apporter ma pierre de gratitude. En 1940, ils ne furent que quelques milliers à rejoindre la France libre du général de Gaulle. Cela rend d'autant plus remarquable le courage de ceux qui, dès le départ et de tous les horizons, comme Daniel Cordier, alors adhérent à l'Action française, ont formé l'armée de la revanche. Dans un formidable entretien qu'il avait donné à la revue Esprit en 2001, Daniel Cordier rappelait qu'à 20 ans à peine, il dut s'arracher à ses amis, à ses parents, dont il fut sans nouvelles pendant 4 ans, parce qu'il avait ressenti un refus charnel de la défaite, du déshonneur et de l'esclavage. Et il ajoutait « L'exemple de la France libre dans l'histoire n'est pas de nature politique, mais d'ordre moral, celui d'appartenir à la garde prétorienne de la liberté. »
Et quelle garde, Anne ? Daniel Cordier fut le secrétaire de Jean Moulin, alias Rex, chef des réseaux de la résistance en France.
Oui, Jean Moulin, à qui il a consacré 3 tomes, que je ne vais pas vous lire ici, mais dans le fameux entretien à la revue Esprit, Cordier revenait sur ce grand homme, ainsi que sur la notion d'héroïsme qu'il définissait comme un défi à la condition humaine, une transgression des limites. Selon lui, la fascination qu'exerçait le préfet devenu grand résistant, Jean Moulin, venait du statut de citoyen ordinaire que ce dernier avait avant l'occupation. « La résistance a transfiguré son existence », expliquait Cordier. Rien de comparable avec De Gaulle, qui depuis l'adolescence estimait l'homme d'un destin. Quel Français peut espérer devenir De Gaulle, né semble-t-il pour incarner un mythe, alors que tous les Français peuvent devenir Jean Moulin, disait Cordier, en ayant foi en leurs convictions et en pratiquant la vertu du sacrifice.
Tous les Français peuvent devenir Jean Moulin ou Daniel Cordier d'ailleurs. Ça paraît un peu utopique tout de même.
Ça paraît tout à fait utopique, bien entendu. Où se niche l'héroïsme? D'où vient-il? Comment se fait-il qu'il se révèle chez certains quand les circonstances le commandent? Vaste question. Mais ce que voulait dire Daniel Cordier par cette phrase, je crois, c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans l'histoire, car ce sont les hommes qui font l'histoire. Que la volonté et le courage de quelques-uns peuvent changer le cours du destin. Vous savez, dans l'histoire, les héros sont toujours moins nombreux que les victimes, dont notre époque raffole en ayant un petit peu tendance à mélanger les deux concepts. Pourtant, il faut savoir admirer les héros et il faut savoir leur rendre hommage quand ils s'en vont. Et Daniel Corrillon fut un, pour qui aime la France et la liberté, la dette envers lui est infinie.
Absolument. Merci Anne Rosanchet pour cet hommage et cette carte blanche.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h23 et ce soir dans le débat du Club des Idées, on parle gros sous. Le Premier ministre a encore annoncé de nouvelles aides aujourd'hui pour soutenir l'économie française et les secteurs en difficulté. C'est tant mieux, oui, mais voilà. Qui paiera à l'arrivée? D'où viennent les milliards qui sont injectés depuis 8 mois dans l'économie? Comme si l'argent était gratuit, alors qu'on nous disait que les caisses étaient vides. Alors cette dette, faudra-t-il la rembourser? Et qui s'en chargera? Nous ou nos petits-enfants? On en parle donc ce soir avec Éric Heyer, bonsoir, directeur analyse et prévision à l'OFCE.
Bonsoir.
On en parle également avec Christian Saint-Étienne, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste et professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. Et on en parle également avec Marc Toiti, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Économiste et président du cabinet d'études et de prévision ACDEFI. Alors messieurs, d'abord j'ai une question toute simple. D'où vient l'argent? C'est une question un peu naïve, c'est vrai, mais que se posent des millions de Français. D'où viennent tous ces milliards, Éric Heyer?
Aujourd'hui, admettons l'État français, donc c'est l'Agence France Trésor, quand elle va lever, ils vont lever 260 milliards, c'est sur les marchés financiers. Donc globalement, il y a aujourd'hui beaucoup d'épargne privée. Et cette épargne privée, aujourd'hui, peut aller financer soit des entreprises, soit aussi de la dette publique. Et donc aujourd'hui, l'Agence France Trésor peut aller lever soit sur les marchés financiers, ou alors il y a des banques centrales également qui peuvent aussi prêter aux États. Alors, ce n'est pas vraiment le cas normalement sur le marché primaire en Europe, mais ça peut être aussi les banques centrales qui
prêtent. Auprès de qui, Christian Saint-Étienne, ces emprunts sont levés?
Ça sera auprès de ce qu'on appelle les investisseurs finaux, c'est-à-dire in fine les épargnants, les personnes qui... Enfin, quand vous déposez de l'argent sur un livret ou quand surtout vous
achetez... On détient des petits bouts de dette d'État,
oui, quand vous achetez, surtout quand vous détenez de l'assurance-vie, en réalité l'essentiel de l'assurance-vie, 80% de l'assurance-vie est investi en dette publique. Donc vous détenez de l'assurance-vie. Mais en réalité, à travers l'écran de la compagnie d'assurance, vous détenez de la dette publique.
D'accord. Marc Toiti, d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que les 500 milliards de dettes supplémentaires liées au Covid, on est en train de les emprunter auprès des investisseurs du monde entier et aussi des petits épargnants français d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. Ça, c'est, on va dire, pour le côté connu, mais il y a également un côté un peu moins développé, ce qui est ce qu'on appelle la planche à billets de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire qu'effectivement, via l'intermédiaire des banques, c'est quand même aujourd'hui la Banque Centrale Européenne qui finance une grande partie de cette nouvelle dette. Donc, c'est ce qui permet justement, parce que c'est ça le miracle un peu de cet argent gratuit, c'est que normalement, quand on s'endette, eh bien, les taux d'intérêt qu'on paye sur notre dette augmentent. Là, le miracle qui se produit, c'est que plus la dette publique augmente, que ça soit en France, en Italie, même en Grèce, plus les taux d'intérêt baisse. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, puisqu'on a mis des taux d'intérêt qui sont négatifs sur la dette publique. Et ça, c'est ce qui fait que, grâce à l'action de la Banque Centrale Européenne, ce qu'on appelle cette planche à billets, c'est grâce à ça que cette dette paraît indolore. Mais elle est bien là, effectivement, et donc il faudra la payer.
Alors, la planche à billets, on va l'entendre. Ça fait ce bruit-là, une planche à billets. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a la planche à billets qui tourne à fond la caisse dans les sous-sols de la Banque Centrale Européenne, Christian Saint-Étienne.
Il y a un petit point technique quand même qu'il faut rappeler, c'est que la Banque Centrale n'a pas le droit de financer directement les États et donc en réalité, elle rachète la dette émise par les États sur les marchés financiers. Donc c'est bien les marchés qui financent. Et ensuite, la Banque Centrale vient en seconde ligne racheter la dette qui avait été dans un premier temps acheté par les marchés.
Petite parenthèse.
Alors, néanmoins, in fine, la Banque Centrale Européenne est aujourd'hui un des financeurs finaux principaux de la dette publique en Europe. Et donc la BCE est l'acteur qui contribue de manière décisive au phénomène qu'évoquait Marc Toiti il y a quelques secondes, à savoir le fait qu'en dépit de la montée colossale de cet endettement, nous empruntons à des taux très faibles.
Alors, simple question parenthèse parce qu'on va y revenir après. Mais donc, CQFD, si les dettes sont détenues par la Banque Centrale Européenne, ça veut dire qu'on peut les annuler parce que la BCE peut prendre ses pertes. Éric Heyer.
Alors, il faut savoir, une banque centrale, ça appartient aux États. Donc, du coup, si la banque centrale fait des pertes, alors, in fine, elle va remettre ses pertes aux États. Et inversement, si elle fait des bénéfices, eh ben, elle reverse à ses actionnaires. Oui. Donc, vous voyez, ça, on peut considérer que payer des intérêts à la Banque centrale, ce n'est pas si grave, parce que si elle fait effectivement une partie des gains, les États le récupéreront. Donc, c'est un peu à vase clos. Mais attention, alors, c'est vrai que c'est un peu technique, mais ce n'est pas de la vraie monétisation. Il ne faut pas avoir la planche à billets, justement. Aujourd'hui, l'argent, ça a été rappelé par Christian Saint-Etienne, c'est-à-dire que elle le rachète à des banques, et donc elles ouvrent des comptes pour la banque, et donc oui. C'est ce qu'on appelle des réserves obligatoires, et donc c'est pas de la vraie monnaie, c'est pas en circulation. Oui. Au bout d'un moment, on peut le monétiser, mais pour l'instant, c'est pas de la vraie monétisation.
Bien, on a à peu près tout compris, messieurs, donc on va pouvoir maintenant débattre. Qu'est-ce qu'on en fait de cette dette et comment on la rembourse? On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h31, c'est la suite du débat du Club des Idées, et ce soir, on parle de la dette Covid. Les milliards pleuvent en ce moment sur la France, c'est bien, car ça permet de soutenir l'économie française, mais ça coûte très cher. Alors, in fine, qui va rembourser? On en parle donc ce soir avec nos invités. J'ai une question, tiens d'ailleurs pour vous, Eric Ayer, directeur analyse et prévision à l'OFCE. À combien elle s'établit aujourd'hui, cette dette Covid? On entend partout que le déficit public atteindra les 120% du PIB d'ici à la fin de l'année. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, ouais. 120%, parce qu'on était en dessous de 100% il n'y a encore pas si longtemps. Mais à combien elle va s'élever au total, cette dette Covid?
Alors, attention, vous avez dit déficit alors que c'est dette, d'accord? Donc là, c'est la dette publique qui s'élève à 120%. Le déficit, il devrait se situer...
Oui, j'ai dit déficit, pardon.
Ouais, plutôt vers les 11%, c'est pas grave. Mais du coup, ce qui est lié à la Covid, exactement, enfin, c'est ça qu'il va falloir bien déterminer. Dans l'augmentation du déficit, vous avez une partie conjoncturelle, parce qu'on a mis sous cloche l'économie. Bon, ben voilà, donc l'activité a chuté, et donc cette chute d'activité, il y a moins de recettes associées, donc le déficit augmente par ces mécanismes-là, mais ça, on peut dire que c'est que conjoncturel. Une fois que ça va repartir, ce déficit-là va se résorber. Et vous avez une partie un peu plus structurelle, c'est-à-dire qu'il y a des aides qui sont données. Mettons, lorsqu'on décide avec un plan de relance de baisser, mettons, les impôts à la production, ça va rester même après le Covid. Et donc ça, c'est effectivement une dette qui est, on peut considérer, dette Covid. Alors, c'est un peu plus compliqué de distinguer ce qui est du conjoncturel et du structurel. Ce que l'on peut dire, c'est que normalement, enfin, si on croit les projets de loi de finances, on aurait dû être à 99%, un peu moins de 100 en 2020. On va être plutôt aux alentours de 120. Donc, une première approximation peut être 20 points de PIB. Mais en fait, c'est moins que cela, parce qu'il y a une partie qui est très conjoncturelle.
Et aujourd'hui, la dette, c'est 2 500 milliards d'euros, c'est ça à peu près?
C'est ça.
Mmh. Oui, ça fait peur comme chiffre, hein, quand même.
C'est beaucoup.
Bien.
Alors,
2638 exactement, c'est les derniers chiffres du deuxième trimestre. Mais on va aller beaucoup plus loin effectivement dans les prochains mois. Et puis évidemment, tout l'enjeu, c'est de pouvoir encore une fois isoler cette dette. C'est quasiment impossible, hein, comme l'a dit Eric. Mais le vrai problème de la dette, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité. C'est-à-dire que s'endetter à la rigueur, ce n'est pas grave. Mais il faut que cette dette génère une croissance économique suffisamment forte, d'abord pour créer les emplois, ensuite pour réduire les déficits, et puis au moins pour payer les annualités de la dette.
Oui.
Qui aujourd'hui est loin d'être garantie. Donc c'est ça le problème, c'est pas la dette en elle-même, c'est le fait que malheureusement elle n'est pas efficace.
Oui.
Elle produit des aides, mais elle ne génère pas malheureusement de dynamisme économique.
Alors je voudrais qu'on s'arrête sur le débat du moment. Rembourser ou pas cette dette? Bruno Le Maire, ministre de l'économie, voici ce qu'il dit.
Je pense qu'une dette, ça se rembourse, et qu'il est important d'expliquer aux Français comment nous allons rembourser, parce que qu'est-ce qu'ils craignent les Français? Une augmentation des impôts. Ils se disent demain on va augmenter les impôts pour rembourser la dette. Tant que je serai ministre des Finances, nous n'augmenterons pas les impôts des Français. Sur le calendrier, nous nous fixons 20 années pour rembourser cette dette Covid.
Et Bruno Le Maire nous dit une dette, ça se rembourse. Mais à l'inverse, Arnaud Montebourg dit ceci.
Moi, j'ai une proposition à faire, c'est une annulation concertée de toutes les dettes Covid de tous les pays membres de la zone euro et un rachat massif par la Banque Centrale Européenne qui donc ne spoliera personne et qui peut être parfaitement annulé car la Banque des règlements internationaux, qui est la Banque Centrale des banques centrales aujourd'hui, recommande cette solution pour pouvoir détruire en quelque sorte de la monnaie. Moi, je proposerai un contrat de réinvestissement dans la reconstruction écologique de l'agriculture et de l'industrie.
Bon, on va être clair, il y a trois manières de rembourser une dette. La croissance, mais il en faut beaucoup, beaucoup, hein, pour générer suffisamment de croissance pour rembourser tout ça. L'augmentation des impôts, le ministre de l'économie a dit, moi vivant, ça n'arrivera pas. La réduction des dépenses et du coût du fonctionnement de l'État. Alors là, il y a peut-être un fil à tirer, Christian Saint-Etienne.
Il y a un quatrième moyen qui s'appelle l'inflation. Mais on y viendra peut-être après.
Laissez
alors effectivement,
les prix,
on va avoir un déficit de l'ordre de 11 points de PIB cette année, 8 points de PIB l'année prochaine. Ce n'est pas soutenable. La question clé, c'est la question de la soutenabilité. Si on a une croissance qui revient à la tendance qui est, 1,25, 1,5.
Oui.
Effectivement, on va traîner cette dette pendant extrêmement longtemps. Il se posera alors la question. En fait, il y a deux questions concernant la dette et la dépense. Pour la dette, c'est la soutenabilité. Pour la dépense, c'est son efficacité.
Mmh.
Quand avant, la dernière année standard pour réfléchir à cette question, c'est l'année 2019, la dépense publique en France était, selon l'OCDE, en norme OCDE, juste en dessous de 56 points de PIB.
Oui.
Si on enlève les crédits d'impôt, on est à 54 points de PIB. Mais si on retient la norme internationale de 56 oui. points de PIB, le problème...
Il faut la rembourser, la dette, ou pas?
Alors ça, là, je suis sur la dépense. La dépense était à 56. Et la question, si vous voulez, c'est que on était 12 points de PIB au-dessus de l'Allemagne.
Oui.
Alors que l'Allemagne a des excédents extérieurs, un taux de chômage moitié moindre.
Bien.
Donc ça veut dire que cette dépense publique, parce que vous évoquiez dans les quatre moyens que nous évoquions ensemble,
oui.
la possibilité de réduire la dépense. La question, c'est est-ce que la dépense française est de bonne qualité? Est-ce qu'elle sert à accélérer la croissance ou pas? La réponse, de toute évidence, est non, puisque avec un niveau de dépense très supérieur au niveau de dépenses des autres pays de la zone euro, on a une croissance faible, un niveau de chômage très élevé.
Donc, réduction du coût de l'État.
Donc
réduction
la question,
du fonctionnement de l'État.
Oui, c'est surtout une politique qui conduise à améliorer très fortement la qualité de la dépense. On peut, par exemple, déjà dire aux Français qu'il est peu probable qu'il y ait une augmentation d'impôts, mais qu'il est très probable qu'on recule l'âge de départ à la retraite.
Oui.
Pourquoi?
Ça, je pense.
Parce
que les seules
retraites, c'est un quart de la dépense.
Alors, Éric Heyer, comment on fait pour rembourser cette dette? Vous êtes d'accord? Le seul levier, c'est réduire les dépenses publiques?
Non, ce qu'il faut payer, c'est les intérêts sur la dette. Ça, il faut les payer. Alors, ça tombe bien, aujourd'hui...
Parce que la dette, on s'en fiche?
Attendez, chaque chose en son temps. D'abord, la seule chose qu'on est obligé de payer, ce sont les intérêts. Bon, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les intérêts sur cette dette sont négatifs, jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire qu'au contraire, aujourd'hui, quand on s'endette, on n'a pas à payer d'intérêts. Au contraire, on reçoit de l'argent.
Oui.
Donc là, ça tombe bien, on peut s'endetter.
Mais quand les taux d'intérêt vont remonter, ça ne sera pas la même histoire.
Mais on verra. Parce que vous voyez, ça fait à peu près 10 ans, 15 ans qu'on nous dit que les taux d'intérêt vont augmenter. Ils ne cessent de baisser.
Oui.
Vous voyez, donc il faut aussi comprendre pourquoi. Et là, j'en viens à ma deuxième idée. C'est que pourquoi aujourd'hui les taux d'intérêt baissent, ce n'est pas uniquement à cause des banques centrales, puisque ça a commencé avant que la banque centrale commence à racheter de la dette. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin, il y a beaucoup d'épargne, il y a un besoin d'actifs sûrs.
Mmh.
Et les seuls actifs sûrs qui existent...
C'est la dette des États.
C'est la dette des États. Et parmi la dette des États, la dette française est extrêmement bien notée. Pourquoi? Parce qu'en face de ce passif, on ne parle que de la dette, mais en face de ce passif, il y a beaucoup d'actifs. C'est l'administration publique, on 120 points de dette, mais ils ont beaucoup plus d'actifs, ils ont 140 points d'actifs.
Donc l'État est riche dans son patrimoine.
Les administrations publiques au sens large. Donc vous voyez, la question n'est pas réellement de savoir est-ce qu'il faut baisser la dette, c'est à quoi a servi cette dette.
Oui.
Est-ce que cette dette sert effectivement à améliorer les actifs des administrations publiques, ou alors est-ce que ça sert à financer des retraites? Alors c'est sûr que si c'est pour financer des retraites, c'est pas intéressant, effectivement.
Oui.
C'est à la génération d'aujourd'hui à la financer. En revanche, si c'est pour effectivement investir dans la transition écologique, si c'est pour garder des actifs,
recherche.
Là, ça peut être intéressant.
Alors, Bertrand Badré est également avec nous, ancien directeur général de la Banque mondiale, fondateur d'un fonds d'investissement. Bertrand, vous avez écouté sagement tout ce qui a été dit. Est-ce que vous êtes d'accord? On peut laisser filer la dette parce que la France a des actifs sûrs et faire comme les Japonais, plus de 250% de dette. C'est possible, ça?
Alors j'ai écouté effectivement très très sagement. Ce que disait Éric Heyer est exact, c'est qu'on est dans une situation qui est très particulière, où grâce à la Banque Centrale Européenne, essayons d'imaginer ce que ça serait si on était encore avec le franc français. Donc on peut se bénir d'avoir créé l'euro et d'avoir une Banque Centrale Européenne qui nous permet de faire ça. On a la capacité de gérer le coût de cette dette et la durée de cette dette. Donc ça nous donne une immense flexibilité. Le risque derrière tout ça, c'est la confiance dans le système. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Si les gens ne font plus confiance, le système peut s'effondrer. C'est impossible de le modéliser, ça n'arrivera peut-être jamais, ça arrivera peut-être dans 50 ans, ça arrivera peut-être plus tôt, et c'est la clé. Et donc pour l'instant, effectivement, c'est pas de laisser filer la dette, mais ce qu'on fait aujourd'hui est raisonnable. Ça ne veut pas dire que c'est soutenable dans la durée, mais que c'est parfaitement raisonnable de faire ce qu'on fait aujourd'hui.
Si ce n'est pas soutenable dans la durée, comment
on
fait?
Et le débat est identique aux États-Unis d'ailleurs.
Enfin,
c'est pas la Réserve fédérale a même été d'ailleurs beaucoup plus agressive que la Banque centrale européenne de ce point de vue-là.
Mais Bertrand Badré, pour être tout à fait concret, j'évoquais tout à l'heure les trois manières de rembourser rembourser une dette, ou en tout cas de rembourser les intérêts de la dette, pour reprendre ce que disait Éric hier. Que faut-il faire en France face à cette dette Covid qui va s'alourdir ? Augmenter les impôts ? Réduire le train de vie de l'État et les dépenses
réalité,
publiques ?
La réalité, c'est que dans la durée, ce sera les trois. Je veux dire, on ne va pas se raconter d'histoire. Bien sûr, Bruno Le Maire ne va pas dire aujourd'hui, alors qu'on est en pleine dépression, qu'on va augmenter les impôts. Ce serait suicidaire. Ce qu'il faut, c'est réamorcer la croissance. Avec des taux très bas, on n'a pas besoin d'autant de croissance que quand les taux étaient très élevés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il faut redonner de l'air à l'économie. Les impôts, les gérer dans la durée. Et évidemment, travailler sur la dépense. Je souscris à ce qui a été dit notamment par Christian Saint-Etienne.
Oui.
Donc on va. Et la bonne nouvelle, c'est que effectivement, la BCE nous permet de gérer ça dans la durée. Mmh. On a du temps. Quand Bruno Le Maire dit on va gérer pendant 20 ans, c'est exact. Enfin, on peut faire ça aujourd'hui. Bien. Grâce à la BCE.
Vous partagez ce qui a été dit, Marc Toiti. Voilà, faut faire un peu les trois à la fois, et puis ça va durer plus de 20 ans, comme l'a dit le ministre Bruno Le Maire.
Moi, je pense qu'il faut arrêter de mentir aux Français. Parce qu'en fait, effectivement, quand on entend Arnaud Montebourg dire, et il n'y a pas que lui, hein, dire oui, mais cette dette, on n'aura pas à la rembourser, on va rembourser que les intérêts, etc. Non, même, il faut rembourser le capital, de toute façon. Alors, pas tout de suite, bien sûr, mais avec le temps, ça va se faire. Et quand bien même, parce que moi, je me suis posé la question, il faut rentrer dans le scénario où on dit, ben voilà, on ne rembourse pas la dette. Regardez, aujourd'hui, en Italie, hein, le gouvernement a commencé à dire, ben on va pas rembourser la dette Covid. Donc, l'idée commence à percer, même au niveau des dirigeants politiques. Donc, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ben, admettons qu'on y arrive par un coup de baguette magique. Le problème, c'est justement ce qu'on vient d'évoquer à l'instant. C'est ensuite la crédibilité. À la rigueur, ok, vous annulez une partie de votre dette passée. Mais la dette à venir, vos déficits à venir, plus personne voudra vous financer. Et c'est là où, justement, les taux d'intérêt vont augmenter parce qu'on sera plus du tout crédible. Et là, qu'il y ait la BCE ou pas, si les taux d'intérêt augmentent, ça cassera l'activité économique, ça fera du chômage. Et au moment où juste on pouvait redémarrer en 2021, en 2022, c'est là où on va rechuter. Donc c'est ça qui est très dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être responsable de ce point de vue-là. Il faut dire la vérité aux Français, et malheureusement, c'est vrai, je pense que les impôts augmenteront, ou alors il faut effectivement avoir une croissance plus forte sur l'innovation, sur la technologie.
Alors la France n'est pas la Grèce, mais c'est vrai que quand on regarde l'histoire récente, l'augmentation des dettes souveraines, ça n'a jamais été bénéfique aux populations, Éric Hier. C'est jamais bon quand même.
Ah, je ne sais pas, parce que en fait, baisser la dette publique, ce n'est pas bon non plus pour les populations. Vous voyez, donc on ne sait pas, mais vous voyez, c'est des questions qui sont dans les thèmes de recherche. Quel est le bon niveau de la dette publique? On n'a pas la réponse.
Hein. On n'a pas la réponse.
Non, on n'a pas la réponse. On a cru l'avoir à un moment avec 90, mais l'étude en question avait été un peu manipulée. Et donc, globalement, il n'y a pas la bonne réponse. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on raisonne aujourd'hui en dette brute, d'accord? Alors que ce n'est pas la bonne façon de raisonner. Il faudrait raisonner en dette nette. Il faut savoir à quoi a servi cette dette. C'est ce qu'on a dit. Et puis alors, ensuite, ce problème de génération, à mon avis, est un faux problème. C'est-à-dire que, vous voyez, la dette publique, elle est détenue par la génération d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui des personnes, vous, moi, qui détenons la dette publique.
Oui.
Et donc, et pareil des assurances-vie. Et donc, dans 20 ans, 30 ans, ça sera nos enfants qui hériteront de notre... De nos assurances vie. Et donc globalement, quand on va augmenter potentiellement les impôts, ça sera pour payer la génération plus tard aussi qui détient cette dette. Donc attention, c'est pas des transferts intergénérationnels, c'est intragénérationnel. C'est-à-dire qu'on va payer à celui qui détient la dette. Celui qui détient la dette, il sera dans la génération future.
Christian Saint-Etienne.
Alors, il faut pas paniquer les auditeurs. Éric Ayer a justement dit que le point central, c'est d'honorer les intérêts sur la dette, parce qu'à ce moment-là, la machine s'arrête. Il y a un autre élément clé, en dehors de la question du bon niveau de dette, qui est l'équilibre extérieur.
Oui.
Alors, je vais le dire très simplement. Quand votre balance courante est équilibrée, ça veut dire que le déficit public est en fait financé par l'excès d'épargne des autres grands acteurs que sont les ménages et les entreprises. Vous évoquiez tout à l'heure le cas du Japon. Vous avez dit, est-ce qu'on peut monter à 250% de dette? D'abord, au Japon, une grande partie de la dette publique est en fait détenue par des acteurs publics. Donc, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que le Japon a des excédents extérieurs, ce qui veut dire que la quasi-totalité de la dette publique japonaise est détenue par les Japonais. C'est un peu le cas de l'Italie où le taux de détention par les Italiens est beaucoup plus élevé qu'en France. Moi, ce qui me préoccupe au moins autant que la question de la dette, c'est celle du déficit extérieur. Parce que ça veut dire qu'au fond, on accumule à la fois une dette interne, mais également une dette externe. Donc, si on veut répondre in fine à votre question, Je pense que ce qu'il sera important de faire à partir de 2021-2022, une fois qu'on aura passé cette crise, c'est commencer à réduire le déficit sans trop s'inquiéter du montant de la dette, mais revenir à un niveau de déficit qui permette au moins de stabiliser le niveau de la dette en pourcentage du PIB. Et l'autre point, c'est de mener une politique économique très forte qui nous permettent d'équilibrer nos importations. On en revient à la qualité de la dépense. Si la dépense permet d'augmenter le potentiel productif, il n'y a pas de problème. Si ça finance uniquement des retraites ou des prestations ou des dépenses de fonctionnement, on n'avance pas collectivement.
Alors, je voudrais partager avec vous des archives. On va remonter un peu le temps pour vous montrer pourquoi on a ce débat ce soir sur la dette. C'est que depuis 50 ans, on nous bassine, nous les Français, avec cette histoire de dette.
Nous héritons de la dette, nous héritons du déficit, nous héritons de l'inflation. La note est beaucoup plus lourde qu'on ne le suppose.
Il y a une dette, il y a des dettes sociales. Elles feront l'objet, en effet, d'un prélèvement qui a été défini pour être le plus équitable possible.
J'ai été un peu surpris du débat sur de prétendus excédents fiscaux. Il n'y a pas d'excédents fiscaux dans un pays qui a plus de 200 milliards de francs de déficit de ses comptes publics.
Un pays qui a 1 000 milliards d'euros de dette doit consacrer le surplus des recettes de la croissance au désendettement et à la réduction du déficit.
Voilà, on est remonté à 73 avec François Mitterrand, ensuite Jacques Barrot 95, Dominique Strauss-Kahn en 99, ministre de l'économie, et Nicolas Sarkozy, ministre de l'économie, en 2004. Bertrand Badré, la dette, on nous en parle depuis 50 ans en nous disant que c'est à nous, Français, de rembourser cette dette. Est-ce qu'on est dans le vrai? Parce que, à vous entendre ce soir, en fait, c'est les intérêts de la dette qu'on rembourse. Et ce n'est pas si grave si la dette de la France dépasse les 120% de PIB.
Oui, oui. Alors, ce qui m'amuse, c'est que vous réveillez des souvenirs que vous n'avez pas mentionnés. C'était la dissolution de 1997 qui s'était faite aussi sur le thème de contrôler la dette. Et à l'époque, j'étais petite main au ministère des Finances et j'avais fait sur mon tableur, sur mon PowerPoint, le tableau de la boule de neige de la dette. Donc ça me rappelle des souvenirs très, 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 très précis. Non, je crois qu'il faut distinguer ce que fait-on dans la durée de la réponse à une crise qui est la crise de cette année. Et la crise de cette année, on sait tous autour de cette table que ça coûte toujours beaucoup plus cher de ne pas traiter la crise quand on est dedans que de le faire trop plus tard. Donc il faut traiter avec tous les moyens possibles la crise aujourd'hui et après avoir une stratégie dans la durée qui est une stratégie de retour de la croissance, de travailler sur les équilibres extérieurs, enfin la partie PNB, de l'équation dette sur PNB, oui. Et puis après travailler sur l'équilibre impôts-dépenses. Et donc il faut vraiment distinguer ce temps dans la réflexion et il ne s'agit pas de faire peur. Mais c'est vrai que c'est très troublant, de même que quand on avait fait très peur en disant quand on va perdre la notation AAA, c'est notre trésor national. Mais c'est très compliqué parce qu'on dit la dette va nous coûter plus cher. Et puis en fait, on a perdu le AAA et la dette nous a coûté moins cher. Donc il y a un très gros travail de pédagogie à faire. Le débat de ce soir, on est parti pour qu'on comprenne tout ça.
Marc Toiti, qui va payer via une hausse des impôts? Vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas se mentir, les impôts vont augmenter, peut-être pas sous Bruno Le Maire, mais ça va arriver. Qui paiera? Est-ce que ça sera les plus riches ou ça sera tout le monde?
Ben malheureusement, je pense que comme toujours, c'est tout le temps la classe moyenne qui paye le plus. Alors le danger, c'est bien sûr qu'après, il y ait des ponctions sur l'épargne, etc. Enfin, des nouveaux impôts qui n'existent pas aujourd'hui et qui arrivent. C'est ça qui est évidemment le danger. Mais quand même, juste pour rebondir à ce que vous avez dit, parce que vous dites, bon, la dette, ça fait des années qu'on nous en parle. Oui, mais en 1980, la dette publique, c'était 20% du PIB. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était gérable. Aujourd'hui, c'est donc 120 ou 125% du PIB. Donc là, c'est ça qui est compliqué. C'est que on est dans l'inconnu. Hein. Alors évidemment, hein, c'est le titre de mon dernier livre que j'appelais Reset. Je lui dis, peut-être on va faire une grande remise à zéro, puis on va arrêter. Le grand problème, il est là. C'est qu'effectivement, bien sûr, si, pourquoi pas faire un reset, faire une remise à zéro, mais il faut repartir sur des bases plus saines ensuite. Si oui. Ensuite, on a effectivement la garantie qu'on va avoir une croissance plus forte, qu'on va avoir un chômage plus bas, ben je dis, moi, allons-y, annulons la dette. Mais malheureusement, c'est loin d'être aujourd'hui garanti. Donc c'est ce qui fait que c'est ma crainte, malheureusement, que demain, on ait cette tentation. Vous savez que la France est déjà numéro un mondial des impôts, donc ça risque malheureusement de continuer. Et si on augmente les impôts, on casse la croissance. Bien. Et donc à la fin,
merci.
On n'a rien gagné.
Merci Marc Toiti. Un dernier mot, Eric Hier, il nous reste quelques secondes. En fait, sous couvert de dette, la dette a bon dos pour justifier les hausses d'impôts, si je vous entends bien ce soir les uns et les autres.
Alors disons que souvent, pour augmenter les hausses d'impôts, on dit que nous sommes en faillite et que l'État est en faillite. Alors ça, c'est vraiment une belle bêtise. Effectivement, l'État n'a jamais été en faillite et l'État ne sera pas en faillite, en tout cas pas dans les 20-30 prochaines années. Donc, ce n'est pas sous cet argument-là qu'il faut potentiellement aborder soit les réductions de la dépense publique, soit les augmentations d'impôts. Non, il faut l'aborder plutôt sur l'efficacité de la dépense publique et qui doit payer. Mais encore une fois, l'État ne sera pas en faillite et donc il va falloir gérer bien et correctement les finances publiques, mais sans être trop alarmiste de ce point de vue-là.
Bien, merci messieurs les experts, merci de nous avoir éclairés sur ce débat parfois un peu compliqué de la dette publique et de son remboursement. Merci.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h passé de 52 minutes, le Club des Idées se poursuit évidemment et on plonge maintenant comme chaque soir dans les archives d'Europe Soir pour un dernier hommage à Diego Maradona. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Europe 1.
Bonsoir Diane Chenouda.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors Maradona, icône de la pop culture, c'est vrai parce que le dieu du ballon rond a aussi inspiré le cinéma, la musique, le théâtre, j'en passe et des meilleurs, et le street art.
Absolument, il est partout Maradona. C'était le plus rock'n'roll des footballeurs quand même. Et c'est vrai qu'il a inspiré d'innombrables artistes. Alors on l'a dit, c'était plus qu'une star. Une icône au sens propre, puisque son image est partout, avec de multiples fresques. La plus connue est peut-être celle qui imite le plafond de la chapelle Sixtine à Buenos Aires, avec un Maradona tout puissant. À Naples aussi, bien sûr, c'est l'idole de la ville. Alors, quand on va à Naples, d'ailleurs, on voit partout des portraits de Maradona dans les ruelles de la vieille ville. Et puis, cette immense fresque de lui sur la façade d'un immeuble de quartier populaire.
Per Napoli è stato come adesso viene venerato come un santo, però
pour Naples, il est vénéré comme un saint. Voilà ce que dit cet habitant de Naples. Maradona, ça va de la bande dessinée à la comédie musicale, au théâtre, comme cette pièce jouée en France. Maradona, c'est moi.
Per football!
Voilà, ça déménage à l'image de Maradona et en Italie aussi, avec cette pièce que Maradona a lui-même jouée sur scène et dont il fait la promotion.
Parla Diego, ci vediamo al Teatro San Carlo il 16 gennaio per dimostrare.
Et puis. Diane, il y a aussi le cinéma avec de très nombreux films à sa gloire.
Oui, oui, oui. Alors que ce soit des documentaires comme celui d'Emir Kusturica qui s'appelle Maradona, tout simplement, qui avait été présenté à Cannes en 2008 avec le roi du foot lui-même, un film sur ses engagements politiques, sa dévotion pour Che Guevara qu'il avait tatoué sur l'épaule ou le visage de Fidel Castro tatoué sur le mollet. On voit Maradona chanter dans le film une chanson à sa gloire. Voilà, il y a des biopics aussi. Le cinéaste italien Paolo Sorrentino sera en train d'en préparer un. Fan absolu de Maradona, il l'a même cité un jour aux Oscars comme une de ses grandes sources d'inspiration, au même titre que Fellini ou Scorsese.
Thank you to my sources of inspiration, Federico Fellini, Talking Heads, Martin Scorsese and Diego Armando Maradona.
D'ailleurs, il a fait apparaître Maradona dans un de ses films, Sorrentino. Bon allez, on termine en musique, car on en a beaucoup parlé depuis sa mort. Maradona a inspiré d'innombrables musiciens et chanteurs. Manu Chao, bien sûr, on l'a beaucoup entendu sur l'antenne. Oui, mais aussi Benjamin Biolay, qui reprend dans cette chanson les commentaires enflammés d'un journaliste sportif après le deuxième but de Maradona face à l'Angleterre. C'était en quart de finale de la Coupe du Monde en 86. C'est étonnant.
Ah oui, je connaissais pas du tout ça, Benjamin Biolay.
Ouais. Mais la version la plus pop peut-être que j'ai trouvée, Julien, c'est celle de Linda de Souza et on se quitte là-dessus.
Excellent. Excellent, Linda de Souza qui chante oui. Maradona.
Ouais, c'est génial.
Merci Diane Chénouda, merci
plaisir,
beaucoup
Julien.
Pour ce moment culture pop avec Maradona. C'est improbable, mais ça fonctionne bien et,
ah
c'est,
oui,
et c'est vrai.
Ouais.
Europe 1. Julien Bugier.
19h57, dans un instant, le rappel de l'info. Et puis Émilie Mazoyer. Émilie, est-ce que tu savais que Maradona était une icône comme ça de la culture pop et avait inspiré autant de chanteurs?
Alors, la chanson de Linda de Souza, pour te dire la vérité, j'ai découverte hier, je la connaissais pas. Nous, on a passé la Mano Negra. Voilà, Santa Maradona, priez pour moi, qui était une chanson très cool. Mais là, Linda de Souza, c'est sublime. Ouais. Vraiment, bravo.
Quel est ton programme, toi, ce soir?
Alors, ce soir, on va recevoir une musicienne et écrivaine, Sylvia Ansel, qui sort un bouquin qui raconte son adolescence, 50 chapitres, 50 chansons qui lui ont sauvé la vie, hein, comme tout le monde à l'adolescence. Et puis comme aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tina Turner, on la retrouvera tout à l'heure dans le live. Un an aujourd'hui, Tina Turner.
Il y a Julien Pierce qui est à côté de moi, il n'en peut plus. Là. Tina Turner, ça lui rappelle plein de trucs. Merci Émilie, merci à
Julien,
tout de suite.
Salut.
19h58, dans un instant, Julien Pierce pour le rappel de l'info. Très belle soirée sur Europe 1 et nous on se retrouve demain, même lieu, même heure. Merci de votre fidélité.